on a tous vécu un peu la même chose, la double culture, l'éducation en France par des parents asiatiques.
En tant qu'asiatique, on nous a longtemps mis dans des cases.
Bah, c'est à travers l'expérience des gens qu'on apprend beaucoup, les uns envers les autres.
Toute ma vie tourne autour de la nourriture, donc je pense que ça, c'est assez asiat.
Se retrouver autour d'une table, discuter et partager de bons moments.
D'avoir une multiculture, c'est trop bien. D'être multiculturel, d'avoir plein d'origines, c'est trop cool.
Comment nos origines asiatiques influencent-elles notre construction identitaire? Comment transmettre nos cultures à nos enfants? Quelle place pour les Asiatiques dans les médias ou les arts? Comment lutter contre les stéréotypes? Comment valoriser les identités et cultures asiatiques? En tant qu'Asiatique vivant en Occident, ces questions, vous vous les posez peut-être. Moi, en tout cas, je me les pose, parmi beaucoup d'autres. Je suis Mélanie Hong, française d'origine sino-vietnamienne, et vous écoutez Asiatitude. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions personnelles et vos récits de vie intime pour mieux appréhender le rôle de nos cultures dans nos vies. Je vous partage aussi mes conversations avec des artistes, entrepreneurs, experts qui agissent pour une meilleure valorisation des histoires, des talents et des savoir-faire asiatiques. Mon but, planter et arroser des graines d'asianité pour mieux vivre notre multiculturalité. C'est parti ! Est-ce que notre rapport à notre identité passe aussi par notre rapport à nos aînés? C'est une question que je me pose et à laquelle je tente de répondre dans cet épisode 4 de la saison 3, à nos grands-mères asiatiques. Dans ce deuxième épisode de la mini-série, Petmani Kuravongsa vous raconte sa Bangwai, sa grand-mère maternelle vietnamienne.
Je m'appelle Petmani et je suis d'origine laotienne de par mon père et vietnamienne de par ma mère qui est en fait laotienne née au Laos, d'origine vietnamienne. Donc voilà, je voulais te parler aujourd'hui de ma grand-mère maternelle qui est née au Vietnam. Elle est née à Ninh Binh et dans une famille assez pauvre. Elle avait deux frères, il me semble, dont un qui est décédé jeune et elle est partie de Ninh Binh à 8 ans. Elle a été confiée à son oncle qui habitait au Laos. À partir de 8 ans, elle était dans la famille de son oncle qui avait des enfants et elle était l'esclave de la famille, j'ai envie de dire. Elle se faisait frapper, elle se faisait très certainement humiliée verbalement, tu vois, tous les signes de l'esclavage. Hein. Il lui a dit, bah oui, à 18 ans, tu feras ce que tu veux. Sauf qu'à 18 ans, il ne voulait pas la laisser partir. Et donc, ce qu'elle a fait, elle a dit « fuck this ». Elle est allée chercher ses papiers dans la chambre de son oncle et elle s'est enfuie. Voilà. Elle aurait été recueillie par une dame, elle a commencé à travailler. Puis, je ne sais pas combien de temps plus tard, elle a rencontré mon grand-père et ils se sont mariés, installés à Vientiane, dans la capitale du Laos. Et là, ils ont eu 10 enfants, donc dont ma mère. Et ensuite, voilà, toutes ces années au Laos, et vient la guerre civile pour l'indépendance du Laos. Elle fuit le Laos avec toute la famille. 2 ans dans un camp en Thaïlande, avant d'arriver en Isère, en France. Dans un appart qu'elle n'a pas quitté avant, là, ce mois-ci. Mon lien avec ma grand-mère, il est très vaste. Ma grand-mère m'a gardée depuis que je suis née. On a tous grandi dans le même quartier, on habitait à même pas 5 minutes les uns des autres. Donc quand je suis née déjà, j'étais la première à être née dans le coin. J'ai 2 cousines qui sont plus grandes que moi, mais qui étaient dans une autre ville et gardées par leur mère. Moi, j'étais la première que ma grand-mère babysitait. Ce lien-là, il commence dès la naissance. Elle m'a gardée, on se voyait pratiquement tous les jours, j'étais toujours chez eux. C'était ma deuxième maison, c'était ma deuxième maman. Ça a évolué. J'ai perdu le lien de la langue parce que dès que je suis allée à l'école, je ne parlais plus que français. Et du coup, le lien avec ma grand-mère est resté au travers de la nourriture. C'est-à-dire que même quand j'allais à l'école, je n'ai jamais mangé à la cantine. Enfin, presque jamais. Ça se compte sur les doigts d'une main. Parce que les midis, je rentrais en tram chez ma grand-mère manger. Mes parents travaillaient tous les deux. Et du coup, moi, j'allais manger mon déjeuner chez ma grand-mère tous les jours. Ce qui me reste, c'est l'odeur, le goût de son poulet au four. qui, pour tous mes cousins, cousines, parce que j'étais pas la seule à aller manger chez elle, hein, on était les cousins, cousines, c'était notre cantine, la cantine familiale. Et on était tous d'accord pour dire que son poulet au four, c'était le meilleur. On l'appelait son four le four magique. Parce que il n'y avait que dans son four que c'était aussi bon, caramélisé comme il fallait. Ma grand-mère, j'adorais ses pankwan. Et du coup, les grand-mères, les parents asiatiques, quand ils savent que tu aimes quelque chose, ils en font tout le temps. Et du coup, à chaque fois que j'allais la voir, elle me faisait pankwan. Et j'aimais ça, mais il y a un moment, j'avais saturé. J'ai l'impression d'en avoir trop mangé. Et c'était pas un dégoût, mais c'est juste que après ça, je crois que j'en ai pas mangé pendant 10 ans. Quand j'aimais quelque chose, elle me faisait. Il y a une époque de ma vie où je voulais plus manger de porc parce que j'avais regardé le film Babe, c'est le petit cochon. Et du coup, je disais, je voulais plus manger de porc. Et ma grand-mère, qui nous faisait toujours des chaya, les nems, sa recette était au porc. Elle avait fait au porc pour tout le monde et elle en avait fait aux crevettes pour moi. Ouais. Et elle a dit, ça là, cette part, c'est les crevettes, c'est pour Boubou, c'est pour moi. On s'est relancé Boubou. Je pense pas avoir beaucoup parlé avec elle. C'était manger. Quand je dis manger, c'est-à-dire c'est moi qui mange. Hein. Elle est fait à manger, moi je mange. Depuis qu'elle ne cuisine plus, parce que voilà, maintenant elle a 92 ans, il me fallait quelque chose pour continuer le lien, quoi. J'ai choisi d'apprendre le vietnamien. Avant, j'avais aucun intérêt pour le vietnamien. C'était pas une langue qui m'intéressait. J'ai l'impression de rien comprendre. Il y a aucun mot que je retenais. Et en plus, quand je le parlais, les gens rigolaient. Donc au début, ça me vexait. Mais ensuite, quand j'ai commencé à... Je disais des mots que j'essayais de répéter à ma grand-mère et que ça la faisait rire, je me suis dit, j'arrive à faire rire ma grand-mère. Donc on va continuer. Donc voilà. Voilà comment on est prise l'envie d'apprendre le vietnamien récemment. J'en suis pas au niveau de la discussion, hein, de la conversation. C'est vraiment... je suis là avec mon petit cahier, puis je lui récite mes mots. Mauda, tu vois, le rouge, les couleurs, je fais les couleurs, je fais les nombres. Et puis elle sourit, elle me corrige. Et après, ma grand-mère, elle est très renfermée, elle parle pas beaucoup. Mais dès que tu commences à la faire parler, après elle va se mettre à parler, puis hop, c'est bon. Elle parle, moi je comprends plus rien. Du coup, je laisse ma mère et mes tantes discuter avec elle et je suis là. Ma grand-mère, je lui dis souvent que je l'aime. Je lui dis, dans toutes les langues que je sais dire. d'ailleurs, justement, je voulais la faire rire. Et du coup, je lui ai dit, Boubou, iu, bangwai. Iu. Et en fait, iu, c'est aimer. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a rigolé, parce que aimer, c'est aimer, genre, aimer romantiquement. Elle m'a corrigé après, j'ai dit, non, moi, je m'en fous, moi, je te iu. Tu me laisses te dire, j'ai dit, je n'ai jamais aimé aucun homme romantiquement, c'est toi que j'aime. Enfin, voilà, le genre de conversation qu'on a, c'est, moi, je cherche à la faire rire et c'est tout, quoi. Tant qu'elle rigole, ça me fait plaisir. Mais ce que je voudrais lui dire, c'est que je suis énormément fière d'elle, de son parcours. Je suis très fière parce que, je trouve ça impressionnant tout ce qu'elle a fait. Très fière d'être sa petite fille. Et je suis très fière de ce qu'elle a fait toute sa vie. J'admire sa force de caractère. Et je sais qu'elle est fière de nous tous, dans la famille.
Le lien de Pet Mani et sa grand-mère maternelle est plein de complicité, de tendresse et de malice. Je trouve très beau qu'elle ait conscience de ce lien précieux et qu'elle l'entretienne avec soin. Dans le prochain épisode de cette mini-série à nos grand-mères asiatiques, vous entendrez Anna Chen, qui partage aussi un lien très fort avec sa grand-mère, qui est pour elle comme une seconde mère.